Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui alimente pas mal de fantasmes.
L'intelligence artificielle.
Exactement. On a souvent l'impression que c'est un concept un peu lointain, futuriste, mais les sources qu'on a sur la table aujourd'hui, elles nous ramènent à une réalité bien plus concrète.
Oui, on s'appuie sur un numéro spécial du magazine IA Mag de ce mois-ci, décembre 2025. Et ça se passe maintenant au Maroc.
Tout à fait. Et l'image qui revient tout le temps dans ces articles, c'est celle de l'iceberg.
C'est une métaphore très, très juste. Ce que tout le monde voit, ce sont les outils comme ChatGPT, les assistants vocaux.
La partie émergée.
Voilà, c'est la pointe de l'iceberg. Mais l'essentiel, l'énorme masse qui a le plus d'impact, elle se trouve sous la surface.
Et c'est là qu'on va aller voir aujourd'hui.
C'est notre mission.
Exactement. Explorer ce qui se cache sous l'eau. On va parler de l'impact sur l'emploi, bien sûr, des grandes stratégies nationales, mais aussi de choses beaucoup plus intimes qui touchent déjà notre quotidien. On va voir comment l'IA crée de nouvelles arnaques ou comment elle analyse nos émotions.
C'est un voyage assez fascinant et parfois, il faut le dire, un peu inquiétant.
Allons-y.
Et pour commencer, attaquons-nous à la partie de l'iceberg qui fait le plus peur.
L'emploi.
L'emploi. Il y a une étude d'MIT qui est vraiment au cœur de nos sources et qui a fait l'effet d'une bombe.
Oui, les chiffres qu'elle avance donnent le vertige. Là, on n'est plus dans la spéculation. Hein.
Non, pas du tout. Les chercheurs du MIT ont créé un outil qu'ils appellent l'Iceberg Index. L'idée, c'est de mesurer l'écart entre ce qu'on voit de l'automatisation et le potentiel réel des IA qui existent aujourd'hui.
La fameuse partie immergée.
C'est ça. Et le résultat est...
spectaculaire. Ils estiment que 11,7% des emplois aux États-Unis...
11,7%.
C'est énorme.
Pourraient, dès maintenant, être remplacés par les IA actuelles. On parle de 1200 milliards de dollars de salaire.
C'est fou. Et ce qui me frappe, c'est que les secteurs touchés ne sont pas forcément ceux auxquels on pense en premier. J'aurais parié sur l'industrie, la tech...
Et c'est tout le paradoxe. Les domaines les plus exposés, en fait, ce sont l'administratif, la finance, les services professionnels, même les ressources humaines.
Ah oui.
Les métiers de bureau. Tous ces métiers de bureau avec des tâches cognitives répétitives. Vérifier des documents, saisir des données, gérer des plannings. L'IA est devenue incroyablement forte là-dessus. En fait, ce qu'on voit dans la tech ne représente que 2,2% de l'impact. La vraie révolution, elle est silencieuse. Elle est dans les bureaux.
D'accord. Donc, aux États-Unis, ils ont ce sonar, cet iceberg index. Mais au Maroc, où en est-on? Est-ce qu'on a une idée de la taille de notre iceberg?
Eh bien, c'est toute la question. Et la réponse des articles est assez claire. Non. Le débat public au Maroc, il oscille toujours entre deux extrêmes. La menace apocalyptique d'un côté...
et l'opportunité historique de l'autre.
Exactement. Mais les deux discours manquent cruellement de données. Un des journalistes utilise une expression qui parle beaucoup. On navigue au doigt mouillé.
Mais c'est incroyable. On a des institutions pour ça, non? La NAPEC, le Haut Commissariat au Plan...
Absolument. Les institutions existent, mais les sources sont formelles. Aucune ne produit aujourd'hui un diagnostic national, précis et chiffré. C'est un véritable angle mort stratégique. D'où cet appel unanime des experts dans le magazine. Il est urgent de créer un iceberg index marocain.
Et concrètement, ce serait une sorte de Météo France de l'emploi?
C'est exactement l'idée.
Un bulletin qui dirait « Attention, risque d'automatisation de niveau 4 dans la compta à Casablanca ».
C'est ça. Cartographier, région par région, les compétences qui deviennent obsolètes et celles qui deviennent cruciales, pour anticiper les chocs. Et surtout, pour éviter le pire scénario, former des jeunes à des métiers qui seront déjà automatisés à la sortie de l'école.
Sans cet outil, on subit la transition, on ne la pilote pas.
C'est le cœur du problème.
Et ce manque de vision chiffrée, ça explique peut-être la difficulté à définir une stratégie. D'ailleurs, un livre a tenté de le faire récemment.
Oui, l'intelligence économique et l'intelligence artificielle au service du Maroc.
Et il a suscité un débat assez vif.
C'est un cas d'école passionnant. Le livre d'Adnan Ben Chakroun a été très critiqué. Le principal reproche, trop théorique, trop abstrait.
On lui a reproché de décrire un Maroc imaginaire.
Exactement. Une construction intellectuelle parfaite, mais déconnectée du terrain. Pas assez de cas pratiques, de solutions concrètes. Un critique a même parlé de profession de foi, plutôt que de guide.
C'est dur, hein? Mais la défense de l'auteur est intéressante.
Oui, parce qu'il assume complètement. Dans une interview, il explique que son but n'était pas d'écrire un rapport d'audit. Il voulait créer ce qu'il appelle une architecture intellectuelle. Penser le Maroc de 2035, pas celui de 2025.
Et surtout, il voulait provoquer un débat public qui n'existait pas.
Et de ce point de vue, c'est réussi. Cette controverse, elle illustre parfaitement cette tension au Maroc entre la vision à long terme et l'urgence du terrain.
Cette tension, on la retrouve partout. D'ailleurs, en parlant de réalité du terrain, il y a des impacts très concrets. L'un des articles alerte sur un phénomène qui touche notre façon de nous informer sur Internet. Il parle d'un effondrement silencieux du trafic web.
Séisme silencieux, c'est le terme. Et il est bien choisi, en fait. Le mécanisme est simple, en fait. Aujourd'hui, les principaux lecteurs du web, ce ne sont plus les humains, ce sont les IA.
Ah oui, c'est vrai.
Elles scannent des milliards de pages pour se nourrir. Et quand on leur pose une question, elles ne donnent plus une liste de liens. Elles donnent une réponse directe, un résumé.
Du coup, les gens cliquent beaucoup, beaucoup moins.
Voilà. Et pour les sites de presse, les agences, c'est une catastrophe. Tout leur modèle économique, basé sur l'audience, les clics, la pub, il s'effondre.
Sans qu'on comprenne vraiment pourquoi au début.
Exactement. L'article parle d'un brouillard numérique total pour les éditeurs marocains. Ça nous oblige à tout repenser.
Il faut écrire pour les humains, mais aussi pour les machines.
C'est une révolution mentale complète.
Et ça ne va pas s'arranger. Les sources évoquent maintenant l'arrivée de l'IA agentique. Qu'est-ce que ça change concrètement?
Alors là, c'est un saut conceptuel. L'IA classique, elle est réactive. On lui donne un ordre, elle exécute. L'IA agentique, elle est proactive. Elle n'attend plus les ordres. On lui donne un objectif.
Et elle se débrouille toute seule.
C'est ça. Elle peut planifier, décider, agir en autonomie. L'exemple typique, c'est de lui dire « Organise-moi un week-end surprise à Dakhla avec un budget de 5000 dirhams ».
Et elle réserverait les vols, l'hôtel, tout ça.
Exactement, sans autre intervention.
C'est fascinant et un peu effrayant. La course mondiale doit être lancée.
Elle est déjà lancée. Google, OpenAI, les Chinois. Et les articles soulignent que le Maroc est très en retard sur ce sujet. Freiné par une peur de l'automatisation et aussi l'absence d'un cadre réglementaire.
Et qui dit nouvelle technologie dit nouveaux risques. Un des papiers les plus frappants alerte sur une arnaque qui semble sortie d'un film de SF, le clonage vocal.
C'est peut-être l'une des menaces les plus personnelles. Le magazine décrit un pic d'escroquerie de ce type en novembre dernier au Maroc, surtout via WhatsApp.
Et comment ça marche?
C'est d'une simplicité diabolique. L'escroc a juste besoin de 5 à 10 secondes d'un enregistrement de votre voix.
N'importe quoi! Un message vocal, une story sur Instagram?
Absolument. Une fois qu'il a ce clone, qui est indiscernable de l'original, il appelle un de vos proches.
Un parent, j'imagine?
Souvent. D'un numéro inconnu. La personne décroche et elle entend votre voix paniquer. « Maman, j'ai eu un accident, mon téléphone est cassé, j'ai besoin d'argent tout de suite. »
Oh là là! Le choc émotionnel doit être terrible.
L'instinct prend le dessus et la victime s'exécute sans réfléchir. C'est redoutable.
C'est terrifiant. On ne peut même plus faire confiance à ses propres oreilles. Est-ce qu'il y a une solution?
Heureusement, oui. Et l'article en propose une très simple. Établir un mot de sécurité familiale.
Un mot de passe, en quelque sorte.
C'est ça. Un mot, une phrase, une question idiote que seuls les membres de la famille connaissent. Si on reçoit ce genre d'appel, le réflexe, c'est de demander le mot. Si la personne hésite, on raccroche.
C'est un nouveau réflexe de sécurité à adopter.
Tout à fait.
Et la voix, ce n'est pas la seule chose que l'IA peut lire. Un autre article explore l'IA émotionnelle. Elle analyse nos humeurs.
Oui, on entre dans l'intime, là. Des applications déjà utilisées au Maroc sont capables d'analyser des micro-signaux. Le ton de la voix, la vitesse de frappe.
Les expressions du visage aussi.
Les micro-expressions faciales, oui. Pour en déduire un état, stress, fatigue, colère.
J'imagine qu'il y a un bon et un mauvais côté. Le bon, ce serait l'aide à la santé mentale.
C'est le versant positif, oui. Une appli qui détecte un début de burn-out, par exemple. Mais le versant négatif, c'est ce que l'article nomme le profilage émotionnel.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire une application qui détecte votre coup de fatigue de 15 heures et qui, à ce moment précis, vous bombarde de pubs pour du café.
Ou pire.
Ou pire. Une plateforme qui détecte que vous êtes anxieuse et qui vous propose des contenus encore plus anxiogènes pour vous garder sur l'application. Nos émotions deviennent une donnée à monétiser.
Franchement, quand on met tout ça bout à bout, on a l'impression d'être dans une course folle. La question que posent les experts, c'est est-ce que le Maroc doit juste essayer de suivre ou peut-il inventer sa propre voix?
C'est là qu'émerge une voix très forte, celle du docteur Azzedine Benani. Sa pensée est en deux temps. D'abord, il appelle à sortir du complexe d'infériorité marocain.
C'est-à-dire?
Il dénonce une tendance à survaloriser les experts étrangers au détriment des talents locaux ou de la diaspora. Pour lui, la confiance en l'expertise nationale est une condition de la souveraineté.
Il faut d'abord croire en ses propres forces. Et sa deuxième idée est encore plus radicale.
Oui, il ne dit pas « faisons la même chose que les autres », il propose un autre modèle.
Celui de l'IA frugale.
C'est exactement ça. L'IA frugale, c'est une rupture. On arrête de courir après les modèles géants, énergivores et coûteux. On développe une IA low-tech, en quelque sorte. Sobre, contextualisée et surtout adaptée aux besoins réels du Maroc.
Et on a des exemples concrets de ce que ça pourrait être ?
Oui, et c'est ce qui rend le concept puissant. Par exemple, une IA légère sur un smartphone pour aider un médecin en zone rurale.
D'accord.
Ou une IA spécialisée dans la valorisation de la Darija et de la Mazir pour créer des outils éducatifs. Un autre exemple fascinant, une IA pour préserver le patrimoine qui analyserait les gestes d'un maître artisan pour aider à les transmettre. On ancre la technologie dans le réel.
C'est une vision qui change tout. L'enjeu n'est plus seulement technologique, il devient social. La question, c'est comment vivre ensemble avec ces outils ?
On arrive au cœur du sujet, la cohabitation lucide, comme le dit un éditorial. L'idée n'est pas d'opposer l'humain et la machine, mais d'organiser leur collaboration.
Et il y a des pistes concrètes.
Oui. L'une d'elles, c'est de taxer les gains de productivité de l'IA pour financer la reconversion des travailleurs.
Une idée de redistribution. Et sur le plan éthique ?
Le principe qui revient le plus, c'est l'humain dans la boucle, human in the loop.
La décision finale reste humaine.
Impérativement. Dans les domaines critiques comme la justice ou la médecine, l'IA propose, mais l'humain dispose. Et puis bien sûr, il y a l'éducation.
Former les jeunes à l'esprit critique face à ces outils.
C'est fondamental.
Il y a une phrase dans un article que j'ai trouvé très juste, celui qui s'intitule « La réponse sans l'intuition ».
Oui, elle résume bien la situation. Elle dit en substance que l'IA nous donne la logique, la vitesse, l'information. Mais la stratégie, la vision, le sens, l'intuition, ça reste profondément humain. L'IA est un copilote surpuissant, mais c'est à nous de tenir le volant.
Quel parcours ? On a commencé avec des chiffres un peu abstraits sur l'emploi, cet iceberg, et on termine avec des arnaques vocales et la promesse d'une technologie plus humaine. On voit bien que l'IA n'est plus un sujet pour le futur. C'est une force qui transforme la société marocaine, ici et maintenant.
Absolument. Et s'il fallait retenir une seule chose, ce serait cette question posée par un éditorialiste. Je la trouve fondamentale. Il écrit « La vraie question n'est plus que va faire l'IA ?»
La vraie question est, que voulons-nous en faire ?
C'est un appel à l'action. Ne pas être spectateur, mais architecte.
Et pour finir, je voudrais partager une pensée. Un article mentionne les 13 régions du Maroc, non pas comme des découpages administratifs, mais comme 13 systèmes d'intelligence uniques.
Avec leurs propres défis, leurs propres savoir-faire.
Exactement. Alors, au-delà d'une grande stratégie nationale, et si l'avenir de l'IA marocain était en fait une mosaïque ? À quoi ressemblerait une IA conçue dans la région de Drahat à Filalet, optimisée pour gérer l'eau et l'astronomie ?
Très différente d'une IA développée à Tanger pour la logistique mondiale.
C'est ça. Peut-être que la véritable innovation, la voie marocaine, ne viendra pas d'un seul centre, mais de cette intelligence des territoires, de la diversité même du pays.